franceinter.fr.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Économiste, vous dirigez la société de conseil Asterès. Dimanche dernier, à la primaire, vous avez voté ?
Oui, absolument, bien
pour
sûr. Pour Alain Juppé.
Pour Alain Juppé. Bonjour Robin Rivaton.
Bonjour.
Directeur général de Paris Région Entreprise. Vous avez voté ?
Bruno Le Maire.
Et dimanche prochain ?
François Fillon.
François Fillon, dont le programme est d'une très grande brutalité sociale, disait hier soir Alain Juppé. Il a tort ?
Oui, on a ressorti tous les néolibéralismes, ultralibéralismes, en fonction des goûts et des couleurs des uns et des autres. Au final, on voit bien que le programme de François Fillon correspond à une attente légitime d'une partie de la droite aujourd'hui, et plus que de la droite, d'un corps électoral, à mon avis, beaucoup plus important, et qui, en fait, n'est pas nouveau. En 2007, quand on regarde le programme de Nicolas Sarkozy, il y avait déjà 300 000 départs de fonctionnaires en moins, il y avait déjà la TVA sociale, il y avait déjà le contrat de travail
justement
unique.
Ça n'a pas été fait. La TVA sociale, ça a été mis sur la table en janvier 2012
Ça a été remis en fin de mandat.
Et les fonctionnaires à supprimer, il y en a eu 150 000 postes sur le quinquennat.
Mais l'élan ou la forte mobilisation qu'il y avait eu pour Nicolas Sarkozy en 2007 trouvait aussi ses sources déjà à l'époque dans aussi cette volonté de changer les choses d'un point de vue économique. Et là, on voit que la victoire de François Fillon s'est construite très largement sur cette volonté de changer vraiment radicalement le logiciel économique en France, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais le débat, il porte pas sur l'attente de l'électorat, il porte sur la faisabilité du programme. Donc, est-ce que c'est réalisable ? C'est ça le débat qu'il y a entre Juppé et Fillon cette semaine.
C'est une très bonne question. Les mesures peuvent sembler importantes, mais encore une fois, 500 000 fonctionnaires, il y aura 750 000 départs à la retraite entre les fonctionnaires et les contractuels.
Alors
sur
vous
la période.
Vous comptez 750 000.
750 000 départs à la retraite de fonctionnaires et de contractuels sur la période, donc ça veut dire que François Fillon recrutera 250 000 personnes jusqu'à preuve du contraire sur la période aussi. Donc faut aussi, on peut présenter les choses de toutes les manières à la fin. Ce qui est important, c'est d'essayer de revenir dans la moyenne européenne. Est-ce que c'est possible de le faire en 5 ans ? Oui, c'est possible. Un grand nombre d'autres pays l'ont fait. Quand David Cameron, lors de son premier mandat, crée 2,5 millions d'emplois dans le privé, il montre bien que la voie est possible de créer des emplois et d'être réélu à la sortie, puisque David Cameron n'a pas été sanctionné sur une mesure économique, mais sur une mesure politique, et celle du Brexit et donc de la sortie de l'Union européenne.
Nicolas Bouzou, sur ce débat concernant le nombre de fonctionnaires à supprimer, est-ce que c'est crédible, supportable,
oui, c'est
réaliste?
Bien sûr, de toute façon, on est tous d'accord, en tout cas Robin Rivaton et moi, pour dire qu'il faut diminuer la dépense publique et que cela passe par des suppressions de postes chez les fonctionnaires. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'on en fait un peu beaucoup sur les différences entre les deux programmes. Quand vous mettez les deux programmes face à face, que vous les regardez mesure par mesure, en réalité, ce sont des programmes qui sont très très proches. Alors, vous avez deux différences. C'est vrai que vous avez sur certains sujets, dont celui des fonctionnaires, mais qui est le plus spectaculaire, en réalité, vous avez une différence d'ampleur. François Fillon va un petit peu plus loin sur certains point qu'Alain Juppé. Et puis vous avez aussi une différence de vitesse. C'est vrai que, je pense par exemple à la question de la dégressivité, de l'instauration de la dégressivité des allocations chômage. Les deux candidats veulent l'instaurer. François Fillon, d'après ce que j'en comprends, veut l'instaurer tout de suite. Alain Juppé veut peut-être attendre un ou deux ans. Mais en réalité, on est sur le même type de diagnostic et sur le même type de mesures.
Donc il n'y a pas de différence de nature, c'est
simplement... Non, il n'y a aucune différence de nature.
Des curseurs poussés un peu plus loin pour François Fillon.
Absolument. Ce qui veut dire que la vraie question, c'est celle au fond que vous avez posée, je pense, c'est celle de la faisabilité et peut-être aussi de la capacité à rassembler. Je suis économiste, mais permettez-moi quand même de faire un raisonnement politique. Ces deux programmes, de toute façon, ce sont des électrochocs pour la France. La France, c'est quand même le pays dans lequel on a essayé de faire la loi El Khomri il y a quelques mois, qui est une loi qui représente un dixième ou un vingtième de ce que veulent faire Alain Juppé ou François Fillon, et c'est une loi qui a bloqué la France. Et nous qui... Alors, je suis désolé de parler de Paris, c'est toujours désagréable pour nos auditeurs en province, mais on a bien vu à Paris qu'il y avait eu des violences et que ça avait été quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc là, ce que proposent ces deux candidats aux Français, c'est quelque chose d'une toute autre nature. Et donc, on va avoir besoin d'un très large rassemblement, y compris d'un rassemblement à l'Assemblée nationale, avec, ne l'oublions pas, pour la première fois, un nombre de députés Front National qui risque d'être relativement conséquent. Donc il faudra sans doute faire des alliances avec la gauche, ou en tout cas avec une partie de la gauche, pour faire passer ce type de mesures, en tout cas celles qui ne seront pas décidées par ordonnance, et elles ne seront pas toutes décidées par ordonnance de toute façon. Et donc je pense que cette question du rassemblement est quand même assez fondamentale, si vous voulez vraiment que ces mesures passent, ce qui est mon cas.
D'où le débat sur la faisabilité, parce que, comme le rappelait tout à l'heure Dominique Seux, ça n'a jamais été fait en France.
Bien sûr.
Et on a cette phrase d'Emmanuel Macron hier, la France ne rentrera pas dans le 21e siècle avec ce que la Grande-Bretagne a fait il y a 35 ans. Romain Ribaton.
Oui, bah, c'est la comparaison facile, et même que François Fillon a lui-même dressé et assumé avec Margaret Thatcher. Je pense qu'au-delà des mesures et de la violence du conflit social qui, à l'époque, avait opposé à Madame Thatcher aux mineurs, je pense qu'avec quand même, on l'oublie parfois, Madame Thatcher a fait deux mandats. Hein. Le premier mandat était beaucoup moins réformiste que le second, et c'est lors du premier qu'elle a pu préparer la mise en œuvre du second. La question aussi, moi, à cette question de la modération et du rassemblement, je vais opposer celle du signal. L'économie est devenue très psychologique. L'économie est une science dans laquelle les signaux sont extrêmement importants. Aujourd'hui, pour déclencher toute une série de décisions d'investissement, de consommation, d'embauche dans ce pays, on a besoin de montrer qu'il y a une rupture radicale avec ce qui a été fait par le passé. C'est la rupture, ce fameux slogan de 2007, qui n'a sans doute pas trouvé à être incarné. Et donc, on a besoin de montrer cette rupture pour que tout d'un coup, des gens se disent, eh ben oui, j'ai besoin d'une telle embauche, j'ai besoin d'acheter telle machine. Tout autant d'énergie qui sont aujourd'hui mises sous les ténoirs dans ce pays par un très grand nombre de personnes. Il y a énormément de gens qui veulent entreprendre. On le voit dès qu'on laisse des espaces de liberté. Et il y a un soutien de Monsieur Fillon, qui est Monsieur Novelli, qui a créé une réforme de l'auto-entrepreneur pour laquelle on estimait qu'il y aurait 50 000 auto-entrepreneurs. Quand on la prend 8 ans plus tard, cette réforme, il y a 1 million d'auto-entrepreneurs qui ont été créés dans l'intervalle. Alors, sans doute avec quelques excès ici ou là, mais à la fin, on voit bien que ce pays regorge d'énergie qui ne demande qu'à s'exprimer à condition qu'on les laisse faire. Et donc, on a besoin de ce signal pour dire il y a une rupture, il y a un changement fondamental qui se passe avec le passé, aujourd'hui, qui sera mis en œuvre. Et je pense que les premiers mois seront aussi essentiels, au-delà de savoir si c'est la méthode sur la durée, sur 4, 5 ans. Les premiers mois sont essentiels. Et si le président en exercice n'est pas capable de faire baisser le chômage, au bout de 6, 7 mois, il sera condamné à ne pouvoir rien faire sur les prochaines
années. 6, 7 mois, Nicolas Bouzou, oui. Ça vous semble aussi crédible? Parce que, en admettant que cette cure d'austérité puisse donner des résultats, c'est à quelle échéance? On sait que dans un premier temps, la baisse de la dépense sociale et la baisse aussi du nombre de fonctionnaires, ça crée plutôt... on va dire de la précarité, de l'injustice ou du chômage.
Non mais vous avez raison, moi je veux être honnête, je défends de toute façon ces deux programmes au fond puisque j'ai dit que c'était quasiment les mêmes, mais je crois qu'il faut être honnête vis-à-vis des Français et pas raconter n'importe quoi. Quand vous menez ce type de politique, au début c'est désagréable. C'est-à-dire que
plus que désagréable, le mot est pas bien choisi là.
Vous en trouverez beaucoup des gens qui défendent ces programmes et qui vont vous dire qu'au début c'est désagréable. Là vous êtes dur avec moi quand même parce que preuve d'une certaine honnêteté. Je vais vous donner deux exemples concrets alors. En effet, on va beaucoup réduire la dépense publique. Quand vous réduisez beaucoup la dépense publique, même si vous réduisez les impôts en même temps, au début, ça fait un choc sur la croissance. C'est-à-dire que très clairement, c'est pas bon pour la croissance. Mais il faut le faire quand même.
Si vous augmentez la TVA, ça renchérit les produits et ça fait baisser la consommation.
Bien sûr, on le fait pas pour être méchant. On veut pas tuer la croissance. L'idée, c'est bien de réussir à terme à diminuer la dépense publique, à diminuer la fiscalité pour faire en sorte que notre économie, elle reparte durablement. Premier exemple. Deuxième exemple, le marché du travail. Très intéressant parce que marché du travail, là, les programmes vraiment sont les mêmes sur ces questions-là. Quand on flexibilise le marché du travail. On fait rentrer de nouveaux emplois, ça c'est clair, mais au début, ce sont des emplois qui sont moins bien payés, qui sont moins bons, si vous voulez, que la moyenne des emplois. Moi, en tant que citoyen, ça me gêne pas, parce que je préfère que des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui risquent de tomber dans le chômage de longue durée et dans la grande pauvreté, rejoignent le marché du travail, quitte à ce que ce soit des emplois pas très bien payés, que d'ailleurs...
Vous dites l'État... au début, Nicolas Bouzou, sauf que ces emplois mal payés dans des pays qui ont appliqué des recettes libérales, ça dure.
Pas d'accord. Absolument pas d'accord. Je vais vous donner un exemple concret. Le Royaume-Uni, dans lequel on a instauré, vous savez, ces fameux contrats à zéro heure, alors qu'ils sont dans les faits pas des contrats à zéro heure, bien évidemment. Mais je voudrais faire deux remarques par rapport à ça. Première remarque, ça représente 3% de la population active, donc c'est quand même pas très important quantitativement. Deuxième remarque, les gens qui occupent des contrats à zéro heure, c'était des gens qui dormaient sous les ponts. C'est-à-dire que ça n'est pas la situation du salarié britannique moyen qui s'est dégradée. Ce sont des gens pour lesquels on n'avait pas de solution à proposer qui aujourd'hui réintègrent le marché du travail. Mais vous avez raison, avec des emplois au début, et c'est là où je préfère être honnête, si vous voulez, avec des emplois au début qui souvent ne sont pas bien payés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut aussi qu'on réfléchisse peut-être à la réforme de mécanismes du type RSA qui permettent à l'État de compléter, pour certaines personnes qui travaillent, mais qui ont néanmoins, qui sont dans une situation de pauvreté, de compléter leurs revenus.
Bah, les deux préconisent de fusionner pour une allocation, unique. Robin Rivaton, un mot avant l'arrivée de presse.
Oui, bah, juste pour ajouter un chiffre, les trois quarts des 2,5 millions d'emplois créés au Royaume-Uni sur le premier mandat de David Cameron sont des emplois à CDI temps plein. Donc, on peut aussi regarder la situation et montrer qu'il est possible de créer de l'emploi rapidement avec un cycle économique qui restera positif en 2017 et peut-être 2018. Donc, c'est le moment d'en profiter. On a un début de quinquennat qui commencera avec un peu de croissance économique. La question, c'est de savoir si on l'utilise maintenant ou si, encore une fois, on se dit qu'on le fera en fin de quinquennat, ce qui ne marchera jamais.
Robin Rivaton, Nicolas Bouzon, on poursuit le débat avec les auditeurs dans quelques minutes et dans un instant, la revue de presse.